Nos églises sont des réseaux de solidarité aux côtés des acteurs de la solidarité. Nos églises portent une diversité d'actions solidaires en direction de nos prochains. Pour les chrétiens, la solidarité n'est pas d'abord une question d'altruisme ou de philanthropie. Mais alors, peut-être allez-vous soulever la question suivante. D'où vient cet élan solidaire qui nous pousse à tendre la main au prochain? On vient d'écouter le témoignage de main tendue qui porte si bien son nom, presque une image qui spontanément nous vient à l'esprit, celle d'une main tendue. C'est un peu cette image que j'ai choisi de mettre sur cette slide au début de ce message. Alors, il faut que je prenne les outils de la haute technologie. Voilà. Et que je pointe là-dessus. Super, merci beaucoup. D'où vient cet élan solidaire qui nous pousse à tendre la main au prochain? Et puis, d'autres questions peuvent surgir quand il s'agit d'apporter une réflexion sur l'action sociale, la solidarité dans l'Église ou en dehors. Est-ce à l'Église de porter secours aux pauvres? Est-ce notre vocation? Est-ce notre appel? Et puis j'ai souvent entendu une autre question, ne risquons-nous pas de perdre de vue la priorité de l'annonce de l'Évangile? Jésus nous a dit, allez, annoncez à toutes les nations et faites des disciples. Est-ce qu'il nous a dit, allez, et mettez en place main tendue? Ou mettez en place l'échoppe, la boutique? J'ai souvent entendu de tels questionnements qui visent à opposer l'action sociale et l'Évangile. Alors une dernière question que j'ai souvent entendue aussi lever, jusqu'où doit aller l'engagement social? Jusqu'où devons-nous mettre de l'énergie, de l'argent, de la sueur et même des larmes comme ce matin dans le soutien? Eh bien nous sommes dans un parcours à Bible ouverte dans le cadre du livre des Actes des Apôtres. Et j'aimerais prendre comme point de départ de cette réflexion le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, versets 32 à 37. Nous y lisons la parole du Seigneur. Je crois que je vais passer la main. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin. Car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, poursuit Luc, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas. Ce qui veut dire l'homme qui encourage. En certaines versions, le fils de la consolation. Il vendit son terrain, apporta l'argent et remit le produit aux apôtres. Nous sommes toujours dans la première grande partie du livre des Actes des Apôtres. Et ici, Luc nous raconte la vie de la première communauté des disciples de Jésus-Christ. D'abord à Jérusalem, avec en premier plan le ministère apostolique, notamment autour d'une figure principale, celle de l'apôtre Pierre. Dans cette première partie de son livre et dans ses premiers chapitres, nous sommes spectateurs, témoins, rendus témoins, malgré le temps qui est passé, d'une communauté de disciples métamorphosés, transfigurés, transformés par un événement qui a eu lieu, et Loïc nous l'a rappelé la semaine dernière, celui de l'effusion de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, Actes chapitre 2. Loïc nous a parlé de la métanoïa, du changement donc, de la transformation que ses disciples ont vécu dès lors que l'Esprit-Saint a été répandu sur eux. Dynamisés par l'Esprit-Saint, cette première communauté de disciples de Jésus devient une communauté prophétique qui proclame au monde les merveilles de Dieu manifestées dans la grâce du salut qu'il accorde à l'humanité, à ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit donne les paroles inspirées aux apôtres pour être témoins de Jésus-Christ. Et le même esprit repose sur la communauté de tous les disciples, même ceux qui ne sont pas apôtres, et les encourage et les appelle à oser annoncer au monde les merveilles de Dieu manifestées en Jésus-Christ. Dans le chapitre 3, c'est précisément un récit où Luc nous parle de la guérison d'un homme qui est né impotent des jambes et que d'autres portaient pour le déposer devant l'entrée du temple, la belle porte. Et là, les apôtres s'étaient arrêtés, Pierre et Jean, à hauteur de cet homme qui les fixait du regard, attendant de leur part une aumône. Et leur réponse fut « Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et je rappelais mercredi, pour celles et ceux qui étaient à notre réunion de prière, que Dieu ne nous demande pas de donner ce que nous n'avons pas. Mais Dieu nous dit que nous avons tous reçu son don d'amour. Et Dieu nous invite à partager le Christ, pour ainsi dire, avec le monde, tel que nous le regardons et tel qu'il nous regarde. La guérison du paralytique né a suscité une vive discussion qui a conduit d'ailleurs les apôtres Pierre et Jean en prison. Sortie de cette prison, l'Église fait monter vers Dieu sa première prière dans le livre des Actes des Apôtres, une prière dans laquelle il ne demande pas à Dieu de régler le problème de la persécution et des menaces. Il ne demande pas à Dieu de régler la situation de tous les paralytiques, mais il demande à Dieu de leur donner force au cœur, courage, hardiesse, afin qu'ils continuent de répondre à la vocation qui leur a été adressée, partager l'amour de Dieu au-delà des murs de l'église locale. Parvenu au texte que nous avons lu, Luc nous fournit pour la seconde fois une brève notice de la vie de cette première communauté. Il nous présente cette église de Jérusalem comme une communauté solidaire, d'où le thème de cette prédication, l'église communauté solidaire. Il convient de garder à l'esprit que ce que Luc nous dit ici n'est pas sans lien avec le premier sommaire de la vie de la communauté des disciples qui nous a été présenté au chapitre 2, versets 42 et suivants. Et nous affichons ici les versets en question. Je les lis parce qu'ils sont presque illisibles. « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Tout le monde est très, très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Je posais la question, d'où vient à ces chrétiens cet élan de solidarité qui les pousse à tendre la main au prochain? Eh bien, l'un des éléments et le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous nous est dévoilé par Luc. Cela vient du cœur. Cela vient d'une œuvre qui a eu lieu dans les cœurs. L'élan de leur solidarité ne vient pas véritablement d'eux-mêmes, de leur humanité. L'élan de leur solidarité vient de cet esprit qu'ils ont reçu d'en haut, l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint qu'ils ont reçu d'en haut a été répandu, comme dit l'Écriture, sur leur cœur. Ils ont été changés de l'intérieur, transformés du cœur, élargis du cœur. Et c'est l'Esprit qui, faisant cette œuvre chirurgicale au cœur de leur humanité, changer un cœur insensible aux besoins des autres, changer un cœur égocentré, changer un cœur fermé sur seuls leurs propres besoins. Et bien c'est l'Esprit Saint qui a fait cette œuvre de transformation de cœur et de mentalité. Tant et si bien que Luc traduit, ils étaient parfaitement unis de cœur. Dans le texte grec, ce n'est pas littéralement comme ça. Si on devrait traduire littéralement, il faudrait traduire « ils étaient un seul cœur ». Hendkardia, un seul cœur. Comme s'il nous décrivait cette communauté comme une seule personne. Une seule personne. Ils étaient unis profondément à Jésus-Christ. Et dans leur union au Christ, l'Esprit du Christ a changé leur cœur et l'Esprit du Christ a ajusté leur cœur à ce que Dieu voulait qu'ils vivent. Les premiers disciples, nous dit Luc, dans les deux sommaires, s'attachaient à vivre en communion. Leur communion était d'abord une communion avec l'enseignement des apôtres. Je ne développe pas puisque Loïc en a parlé la dernière fois. Mais je voudrais m'arrêter un peu sur ce terme communion, koinonia. Je vous mets ici la polysémie de ce mot qui est important chez Luc. La koinonia a des sens différents que vous pouvez voir ici. Ça peut signifier mise en commun, des dons, ça peut signifier association, participation. On utilise même le même mot pour parler des offrandes, des libéralités. Ils avaient et ils partageaient en commun le Christ. Et l'Esprit du Christ, qui est un, était en eux, en leur cœur. Cette communion de cœur et d'esprit, qui résulte donc d'abord de l'union des croyants à Jésus-Christ, vient réaliser ici la prière. La prière même que le Christ a élevée dans Jean 17. Avant qu'il ne parte de ce monde, il a prié afin que tous soient un. Père, comme je suis un avec toi. Parce que la mission de l'Église est une, quelle que soit la dénomination. La mission de l'Église est une parce qu'il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et que ces trois personnes, c'est complexe, je ne vais pas trop développer sur la Trinité, vous risquez d'avoir des maux de tête. Ces trois personnes distinctes qui ne se confondent pas, nous montre une voie d'unité. Une unité qui n'est pas uniformité. Ils ne se confondent pas. Mais une unité qui est fondamentalement reliée d'abord à la communion que nous avons avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une construction humaine. Cette compréhension du cœur, j'ai envie de dire du cœur du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Cette compréhension de la nature de notre communion. Parce qu'il se pourrait que quand vous veniez, vous dites « c'est moi qui veux bien venir, je choisis avec qui je parle, je choisis avec qui je prie, etc. » Mais entrer en église, Je ne parle pas du bâtiment. Je parle de la communion relationnelle, spirituelle, de celles et ceux qui ont choisi Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Eh bien oui, c'est entrer dans une communion qui déborde les convenances, qui déborde simplement le fait que nous chantions ensemble, qui déborde le fait simplement de prier ensemble. Cette communion fait de nous des frères et sœurs en Christ, des membres d'une même famille, non plus une famille biologique où nous serions liés par le sang, mais la famille de Dieu en esprit, tant et si bien que c'est précisément une dimension de la solidarité que de venir découler de la fraternité. Nous vivons dans un pays qui a comme devise liberté, égalité et fraternité. Et nous savons la liberté, nous savons en user et même en abuser. L'égalité, nous avons encore bien de choses à faire pour qu'elle soit complètement vécue dans les territoires, dans les conditions sociales des uns et des autres. Et la fraternité, encore plus. Elle est morcelée, elle est déchirée, elle oppose les communautés, ou en tout cas les individus suivant leurs origines, leur statut, puisque en France, nous sommes sur un modèle qui n'est pas communautariste, mais une seule communauté nationale. Mais notre fraternité est malmenée. Or, il me semble que l'un des élans qui pousse vers la solidarité, c'est la reconnaissance de notre commune fraternité. C'est parce que je vois en toi un frère, d'abord en humanité, que je peux tendre la main. Moi, je ne tends pas la main au lion, au loup. Vous tendez la main au lion, vous pouvez, il va vous la prendre pour en faire son beefsteak. Mais nous nous tendons la main fraternelle. Et les apôtres appelaient ça d'ailleurs la main d'association. Une main qui vient traduire, qui vient être le prolongement incarné de cette communion dans laquelle le Christ nous a insérés. Nous ne nous sommes pas choisis. Nous ne sommes pas un club. Nous ne sommes pas un club d'amis. Nous ne sommes pas choisis. Moi, je choisis ceux avec qui je vais faire du foot ou du badminton. Je choisis mon club. Mes enfants choisissent leur club. Mais l'Église ne choisit pas. L'Église est le lieu où la fraternité par excellence est accueillie, où les frères et sœurs nous sont donnés à aimer. Et il y a du boulot. Beaucoup de boulot. Regardez combien vous devez vous mettre au travail pour me supporter et pour m'aimer. Et vous n'imaginez pas combien ça me coûte de faire autant. Cette unité, donc, est d'abord ce qui pousse ces chrétiens à aller vers la solidarité. Deuxième chose que le texte met en exergue, c'est une communauté bâtie sur le partage. Nous lisons, personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient, aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et les remettaient aux apôtres. Ceux-ci les répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Il convient d'abord de faire quelques remarques. J'aimerais le faire dans les slides suivants, 4 points. D'abord que le partage des biens mentionnés par Luc s'inscrivait dans une démarche volontaire et libre. Les premiers chrétiens ne prétendaient pas poser ici les jalons d'une économie communiste où la notion de propriété individuelle serait a priori problématique. Et c'est là que vous faites ouf. Parce que je sens ça, je sens presque, en arrivant sur ce passage, je pouvais sentir presque physiquement des crispations. Je me disais, mais n'y pense même pas, monsieur le pasteur. Hein. Je ne vends pas mon terrain, ma maison, ma voiture. Mais non, le texte ne le dit pas. C'est librement. Mais en même temps, il faut entendre aussi ce que le texte dit. Le texte dit quelque chose de l'état d'esprit et du rapport que nous avons à nos biens. Sommes-nous des gérants ou des propriétaires? Je suis impressionné depuis que je vis en France, ça ne fait pas si longtemps que ça, 23 ans bientôt, de voir qu'on considère que celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a pu être propriétaire le plus tôt possible. Alors certains ajoutent qu'il faut avoir porté une Rolex. Mais déjà, si vous êtes propriétaire, c'est déjà pas simple. Mais porter une Rolex, c'est là, l'est encore moins. Mais est-ce ça vraiment réussir sa vie? Et on a parfois l'impression qu'on a réussi parce qu'on est devenu propriétaire. Alors pour le jeune, il est content, il croit qu'il a réussi parce qu'à 18 ans, on lui donne les clés de sa première voiture, ou à 20 ans. Il est propriétaire, c'est sa voiture. Et maintenant, vous savez, ça commence même à 11 ans ou à 15 ans avec le premier téléphone. Et après, ils disent aux parents, tu n'as pas le droit de regarder mon téléphone. C'est mon téléphone. Et puis, ça va être le premier achat du premier appartement ou de la première maison. Et nous sommes immergés et plongés dans une culture de la propriété. Et nous faisons tous nos efforts pour sortir même de la configuration de la copropriété. Parce que nous ne voulons surtout pas que la façon dont nous allons disposer de nos biens se fasse avec l'implication des autres. Quand vous êtes en copropriété, parfois vous tremblez de ce que l'Assemblée générale va prendre comme décision. Et vous dites, purée, s'il vaut de le ravalement maintenant, est-ce que j'ai 15 000 euros de côté ? Alors, cette mentalité de la propriété, la Bible ne pose pas un jugement négatif là-dessus. Il n'y a aucun passage biblique qui inciterait à mépriser le patrimoine et les actifs que nous pouvons avoir. Mais les chrétiens sont invités à regarder leurs biens, non pas comme leur propriété à eux, mais comme des outils de bénédiction que Dieu les confie pour être en bénédiction aussi aux autres. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne suis pas propriétaire, Seigneur, de ce que tu me confies. Je suis intendant de ta grâce. Mais je dois le faire bien. Je me souviens avec mon épouse, lorsque nous avons voulu acheter notre première voiture alors que nous n'avions pas d'enfants, mais nous étions dans une église où il y avait beaucoup de jeunes, et nous avons décidé de prendre tout de suite une voiture de cette place. Parce qu'on avait le projet d'avoir des enfants, on s'est dit, si le Seigneur nous fait cette grâce, il y en aura peut-être un, peut-être deux. Croyez-moi, on est arrivé à quatre. Mais l'idée, c'était de dire que la voiture puisse servir au ministère. Qu'on puisse prendre les jeunes. Qu'on puisse porter des jeunes, qu'on puisse transporter. Pourquoi rouler avec une voiture tout le temps qui est vide ? Une communauté de changement de mentalité dans nos rapports là aussi à nos biens. Oui, c'est ma voiture, mon nom y est sur la carte grise. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ? C'est la voiture que le Seigneur, dans sa grâce, te confie. Il est même d'accord que cela te fasse plaisir. Il est même d'accord que cela soit une excroissance de ton ego. Voyez, moi je ne conduis pas quand même n'importe quelle voiture. Hein ? Alors je dis en passant que si vous voyez celle que je conduis, vous apprécierez aussi. J'ai aucun souci avec celle-là. Elle roule impeccable et je bénis mon frère qui m'a béni. Elle roule impeccable et en plus, je n'ai même pas le souci qu'on me rentre dedans. Je n'ai même pas le souci qu'on me casse une vitre. C'est une voiture simple qui m'a simplifié la vie. Alors ne regardez pas aux apparences. Moi, je sais ce que j'y gagne d'avoir cette voiture. C'est ma Tesla à moi. Il convient ensuite de remarquer que l'argent des ventes, attention, parce que parfois, les gens disent, mais la solidarité, on ne sait pas où va l'argent. Il y a le téléthon, on appelle, on dit, tapez un et tout, et puis bam, donnez 10 euros, 25 euros. Mais ça va où tout ça ? Et parfois, on se pose la question, la même question avec l'Église. Ici, je voulais nous faire remarquer que si les dons, la solidarité s'est exprimée de manière volontaire, ce n'était pas pour contribuer à l'enrichissement, non pas de l'Église, d'un système, mais non pas non plus des apôtres. Ce n'était pas pour qu'on regarde nos comptes et puis qu'on se dise, ah oui, là on a de quoi voir venir. Ce n'était pas ça. Et ça c'est le piège de toute Église. Vous savez, j'ai été pasteur dans une Église où, en tant que président, j'ai reçu au nom de l'Église un don de bâtiments qui valait à la vente des bâtiments qui étaient restés 25 ans fermés. Nous les avons vendus à l'État et ça nous a rapporté plus de 453 000 euros. Et j'étais frappé parce que tout de suite, l'un des réflexes des responsables à mes côtés, c'était de dire, surtout il faut qu'on mette vite 100 000 euros de côté, qu'on n'y touche plus. On l'a fait. C'était pas mauvais, c'est pas un manque de sagesse. J'en comprends les raisons, la prévision, il faut prévoir. Nous tous ici, on a peut-être des prévoyances, ou que sais-je encore. Mais à chaque fois que nous avions un projet, eh bien, on faisait des appels spécifiques. Et à chaque fois, les gens nous disaient, mais c'est 100 000 euros, pourquoi on ne les touche pas ? Ah non, il est urgent d'attendre. Pressons-nous lentement. Eh bien, vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'étais au congrès avec des amis, frères et sœurs de l'église l'année dernière. Et 13 ans après, les 100 000 euros sont toujours sur un compte. 13 ans après. Et entre-temps, on ne peut pas recruter une personne supplémentaire. Et entre-temps, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mentalité de pauvreté. Prisonnier de l'argent et peur du lendemain. Cet argent qu'il déposait, la Bible nous dit qu'il le déposait aux pieds des apôtres, non pas pour faire une pyramide. Ça ne bénéficiait pas non plus aux apôtres eux-mêmes. Vous savez, il y a des mécanismes de Ponzi dans les églises. Alors, pas ici, je peux vous le dire, de tout cœur. Mais surtout dans certaines communautés, parfois africaines, je peux me permettre de le dire, où les gens sont pressurisés pour que l'homme de Dieu arrive en jet et va à l'hôtel de 5 étoiles et emporte son sac. Ce n'est pas ça qu'on voit ici. On déposait aux pieds des apôtres et ils redistribuaient dans l'église. Et l'argent allait dans l'investissement de la mission de l'église. C'est ce que nous faisons, nous ici. C'est ce que nous faisons. Même si là aussi, j'en suis sûr, le conseil sera d'accord avec moi, nous aurons besoin de foi pour regarder ce que nous avons et considérer que l'objectif, ce n'est pas que nos comptes restent chargés, mais que nous réalisons, que nous entrions dans le projet de Dieu pour les années qui viennent. Et je sais que ça charrie quelques inquiétudes, mais l'Église n'est pas là pour thésauriser. Elle n'est pas là non plus pour faire une solidarité qui la met en danger, mais elle est là pour faire l'œuvre de Dieu. Et vous savez, la bonne nouvelle, et je l'ai vécu, mes amis, je suis venu dans ce pays, il y avait juste 2 valises, 40 kilos comme jeune étudiant. Il y avait la canicule en 2003, je me suis retrouvé avec 30 centimes, je l'ai déjà raconté ça. J'ai fait les rayons humblement pour chercher un biscuit qui valait 30 centimes. Et quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais vivre ce que la Bible dit avec le prophète Élie. Je n'ai même plus la farine pour dire que tu vas faire que la farine ne termine pas. Je n'ai plus rien. Et croyez-moi, le Seigneur a pourvu. Alors il pourvoit comment ? Ben, il pourvoit par un frère, par une sœur, l'argent ne tombe pas du ciel. Ce frère et cette sœur a travaillé. C'est pour ça que l'apôtre Paul va leur dire le modèle qu'on a mis en place, ça ne tiendra pas longtemps. Que celui qui veut manger travaille. Travailler et que comme ça, des gens gagnent bien leur vie. Et que le surplus des uns concourt à l'équité des autres. Voilà comment le Seigneur nous dit sa parole. Et le Seigneur a pourvu. Et chaque fois que vous vous retrouvez devant une situation financière tendue, pas à cause de votre mauvaise gestion, mais simplement parce que Dieu vous a amené à obéir. Croyez-moi, vous verrez alors qu'il est le Dieu qui pourvoit et le Dieu qui renouvelle nos ressources. Ça n'enlève pas notre responsabilité d'être sage. Pourquoi Dieu veut la solidarité dans l'Église ? Pourquoi Dieu veut que l'Église soit solidaire ? Eh bien, parce que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous soit dans l'indigence. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité, mais nous ne prêchons pas non plus un évangile de l'indigence. Nulle part dans la Bible, il y a une prédication de l'évangile de l'indigence. Nous prêchons un évangile d'amour et de responsabilité. Une responsabilité qui fait de nous des bons gérants des grâces que Dieu nous donne en essayant de calquer notre idéal sur ce que Dieu voulait pour son peuple depuis le commencement. Et certains commentateurs ont fait remarquer que Luc ici semble avoir en tête, quand il décrit cette communauté des premiers chrétiens, il semble avoir en tête Deutéronome chapitre 15, verset 4, qui écrit ceci, je ne sais pas si ça va s'afficher, oui, merci beaucoup. « En fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine foncier pour que vous en preniez possession. » Dieu a, par la bouche de Moïse, donné à Israël comme nation des lois qui incluaient la solidarité et la redistribution. On voit constamment le souci de Dieu de dire « prenez soin de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré » qui étaient les catégories les plus précarisées et les plus vulnérables. On voit constamment le Seigneur dire « rebattez les cartes, le jubilé est là, remettez les dettes, etc. etc. » Et on voit que cet idéal qui est proposé là, qui était sur le cœur de Dieu, n'a pas été vécu pleinement. Il suffit de lire les prophètes. Combien ils interpellaient les chrétiens de leur époque, j'appelle ça les chrétiens, les croyants de la première alliance. Lisez Michée, lisez Amos, et vous verrez combien la justice sociale était au cœur de leur prédication. Cette première communauté cherchait donc à hisser sa vie au niveau de cet idéal social visé par Dieu pour Israël. Et il est vrai que de nombreuses lois, je l'ai dit, encourageaient dans ce sens-là. Mais vous me répondrez, et à juste titre, mais nous ne sommes pas un État-nation. Et puis nous vivons en France où la solidarité est organisée et portée par des institutions et nous contribuons à la solidarité par nos impôts, par la TVA, par la CSG, par bien des choses. Et vous auriez raison. Mais pour autant, ça ne nous dédouane pas complètement de cette responsabilité sociale parce que jamais un État n'a pu répondre à tous les besoins de ses citoyens. Même pas Israël. On pourrait donc, à notre tour, en regardant ce qu'ils ont fait, ils ont vendu leurs biens, leur dit « Waouh, c'est génial, qu'est-ce qu'on est nul, on n'a rien compris », et tomber dans une forme d'idéalisation de cet âge, qui n'est pas l'âge d'or d'ailleurs de l'Église, contrairement à ce que j'entends souvent. Ce n'était pas l'âge d'or de l'Église, c'était que le début. La ligne principale du récit de Luc, et je vois que le temps nous presse, c'est le témoignage. Gardons en tête que Luc n'écrit pas pour nous faire un traité de théologie sociale. Il est en train d'écrire pour nous dire « Regardez ce qui se passe quand une communauté de disciples de Jésus dynamisée par le Saint-Esprit se met en marche. Regardez ce qui se passe. » Eh bien, il se passe quoi ? Il se passe qu'ils ouvrent leur bouche pour annoncer au monde entier avec courage que Jésus-Christ est la solution et qu'il est Seigneur. Première chose. Mais il ne s'arrête pas là, et c'est ce que Luc veut nous montrer. Il témoigne puissamment en parole, mais il témoigne aussi puissamment en action. Et il prend ici l'exemple de l'organisation de la première église qu'il nous met devant les yeux. Et d'ailleurs, Luc, pour que nous n'idéalisons pas, quand il finit de parler de l'exemple de Barnabas, je ne m'arrête pas parce que ça mériterait un approfondissement, Barnabas a pu s'inscrire dans ce mouvement en vendant une de ses propriétés et en mettant tout l'argent aux pieds des apôtres. Mais immédiatement au chapitre 5, Luc nous montre un contre-exemple, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, comme Barnabas, étaient libres de vendre ou non leur champ, libres de donner tout ou partie. Là n'est pas la question, mais seulement la duplicité du cœur qu'ils ont manifesté est venue en rupture de ce que Luc a commencé de dire, ils étaient tous un cœur. Barnabas et Saphira n'étaient pas un cœur, ils étaient deux cœurs. Ils étaient divisés dans leur cœur. Et l'ennemi est entré par cette division de cœur et les a entraînés sur le mensonge. Ils ont menti aux apôtres et les apôtres ont dit « Mais comment avez-vous pu croire que vous pouvez mentir à l'Esprit-Saint ?» Ce n'est pas les apôtres de l'Esprit-Saint, mais l'Esprit-Saint a révélé aux apôtres qu'ils sont dans une duplicité de cœur et dans le mensonge. Et ça a provoqué la mort d'Ananias et de Saphira. Vous voyez, ça ne se passait pas si bien que ça. Dès le chapitre 5, le modèle est déjà mis à mal. On sent que certains résistent à cette idée de partager complètement leur propriété. Et ça se traduit d'ailleurs par des stratégies, malheureusement ici une stratégie de mensonge, qui sera durement sanctionnée. N'inventons pas des systèmes qui vont peut-être pousser certains à vouloir mentir, à vouloir ne pas entrer dans la solidarité. Ce que Luc a voulu nous dire, ce n'est pas reproduire ça, allez, on rentre, on vend nos maisons, on n'a plus de propriété, ce n'est pas ça. La preuve, c'est que plus loin, le modèle va évoluer. Quand on arrive à Actes chapitre 6, ce troisième point, ils inventent une nouvelle forme de solidarité. Ce n'est plus les terrains qu'on vend, mais on amène des vêtements, de la nourriture, etc. Et on distribue aux uns et aux autres. Mais ça aussi, ça pose problème. Tant et si bien qu'on doit demander aux responsables à nouveau de trouver une solution. Et ils demandent que cette aide doit être organisée. Discernez vous-même des gens qui en ont les qualités et la compétence pour structurer cette aide. J'ai lu un livre en anglais qui dit « Quand l'aide heurte ». Vous savez, vous pouvez avoir des bonnes intentions pour aider des gens, mais ne pas réfléchir de manière sérieuse votre projet et en réalité blesser les gens ou les empêcher de sortir du système de l'aide. L'Église, Actes chapitre 6, nous montre qu'elle était souple et elle était capable de se questionner et de se dire « Comment on va répondre à ce besoin ? Quelle est la manière la plus adaptée de répondre à ce besoin ? Et puis surtout, comment garder un équilibre entre évangéliser et faire le travail social. C'est là que les apôtres leur disent, il n'est pas bon que nous délaissions la prédication pour venir servir aux tables. Pas parce que les tables, c'est moins important. Mais il faut qu'on fasse les deux, mais pas par les mêmes personnes et pas au même moment. C'était leur manière à eux de réfléchir et de trouver. Je vais conclure en soulignant, on peut rester sur cette slide, c'est la dernière, 1, 2, 3 points. D'abord, 1, pour inventer des formes nouvelles de solidarité à laquelle nous, comme nous y sommes invités dans le cadre de notre fédération, Fabienne a parlé de l'ABEJ, solidarité, c'est l'ABEJ donc, solidarité, Association Baptiste pour l'Entraide et la Jeunesse, qui vous a donné, c'est ça, qui est une fédération qui accompagne le dynamisme des églises dans leur action sociale. Première chose que j'aimerais dire, pour inventer des formes nouvelles de solidarité, eh bien, il ne faut pas partir de notre vision à nous, il faut partir des besoins identifiés. Ça peut paraître enfoncer une porte ouverte, mais les chrétiens aiment la solidarité et inventent des nouvelles formes. Il faut se rappeler que historiquement, les chrétiens ont porté la solidarité en regardant les besoins qui n'étaient pas couverts. La Croix-Rouge est née historiquement dans du cœur d'un chrétien. L'armée du salut, du cœur d'un chrétien. Les colonies de vacances qui sont aujourd'hui un peu en souffrance, ce sont les chrétiens qui les ont initiées, de différents milieux. Et vous pouvez multiplier les exemples. Même dans le cadre du voyage, Thomas Cook, ce sont des chrétiens qui ont lancé ça. C'était identifier les besoins du monde. Regardez le monde, regardez ses besoins et essayez de répondre à ses besoins avec ce que le Christ nous a donné. Deuxième chose, je termine juste, j'avais noté ça. Un exemple d'identification des besoins, pour ceux qui connaissent l'Église, ce n'est pas un scoop, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils découvriront peut-être, vous entendrez parler du Noël du cœur. On a la maison des parents dont j'ai parlé. Voyez, la pertinence de cette vision marche encore, 25 ans plus tard. On a le Noël du cœur qui se poursuit. J'étais à la pastorale il y a quelques jours, Noël du cœur aux Costières, une fois par an, apporter de la chaleur aux personnes en difficulté et leur offrir un repas digne. Et ça mobilise la ville et les églises chrétiennes. Et c'est une pastorale de chrétiens qui porte cette action. C'est formidable. Mais ici, il y a Bruno, il y a Françoise, il y a Laura, les hébergeurs du cœur. Ça part des besoins identifiés. Ce n'est pas qu'on choisit nos dadas, c'est qu'on est touché par un fardeau. Et on se dit, comment je peux y répondre à ma manière? Le camion douche, etc., etc. Main tendue, l'échoppe. Mais il me semble important de rajouter qu'il ne faudrait pas que les chrétiens, dans leur action de solidarité, se substituent aux réseaux existants. Nous ne cherchons pas à faire par nous-mêmes ce qui se fait déjà. Et nous ne cherchons pas à faire et à reproduire ce qui se fait bien et de manière structurée. Nous ne voulons pas remplacer la Croix-Rouge, le secours catholique ou protestant ou populaire, etc. Nous devons donc apprendre à nous insérer dans le tissu des solidarités existantes déjà. Ne faisons pas seulement pour dire, vous voyez, c'est nous qui avons fait ça. Mais vous pouvez trouver votre place dans une action solidaire de votre quartier, de votre ville. Un jour, j'ai fait venir les élus dans l'église où j'étais pasteur et on avait fait une expo photo, il y avait 20 portraits. Et l'idée, c'était des gens qui aiment leur ville. Et ils venaient, ils voyaient chaque visage et ils voyaient où la personne est engagée, dans quelle association de la ville. Et qu'est-ce que cette association apporte au tissu associatif? Les élus m'ont regardé et nous ont regardé, ils ont dit, ça change vraiment notre regard de l'Église. Parce que nous, on a l'impression que vous utilisez toujours l'action sociale pour le prosélytisme. Mais là, on découvre une autre réalité. Des personnes qui sont insérées dans des actions de solidarité de la ville, par amour pour la ville. Mais bien sûr, ce sont des chrétiens qui aiment aussi le Christ. Et nous devons grandir dans cet apprentissage. Trop souvent, les églises ont peur d'y aller parce qu'ils se disent « ben là, ça ne se voit pas. Comme je ne peux pas témoigner publiquement de ma foi, alors peut-être on va considérer qu'on perd notre temps ou qu'on se fait avoir quelque part. » Le bien est bien. Le bien est bien. Le bien est bien. Quand un non-chrétien fait le bien, il est bien. Quand un chrétien fait du bien, il est bien. Et Dieu dit que nous sommes appelés à être des gens de bien, non pas pour faire notre salut par les œuvres, mais parce que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes appelés à faire le bien. Le bien est bien. Il faut apprendre à le reconnaître. Mais il arrive qu'il y ait des trous dans la raquette, des manques, que le tissu associatif ne réponde pas à tout. J'ai vécu cette expérience deux fois à Grenoble. La première fois, c'était autour de l'accompagnement des femmes en situation de prostitution. Ce sont les travailleurs sociaux qui sont venus nous chercher en disant « Messieurs et dames des églises, nous n'arrivons pas à accompagner spirituellement les femmes qui sont en situation de prostitution. » Quand nous les rencontrons, dans leur récit et dans leur parcours, on se rend compte qu'à un moment donné, elles sont passées par une église. Et elles prient, et elles cherchent des moyens. Alors on vient vous chercher, l'appart est venu nous chercher, le nid est venu nous chercher, en disant « Aidez-nous à adresser cette problématique spirituelle. » Et en disant « Il y a aussi même des abus spirituels dans les milieux qu'ils fréquentent. » Vous voyez, même le monde peut venir nous chercher sur nos valeurs, en disant « Vous savez, on accompagne telle population, mais cette population a des besoins spirituels. Je l'ai vécu. » On a également mis une maraude inter-église à Grenoble ensemble. On s'était rendu compte qu'il n'y avait rien le dimanche, mais il y avait toujours autant de personnes en difficulté qui n'avaient pas de repas. Mais les associations de bénévoles ont aussi le droit au repos. Le dimanche et l'été, c'est terrible pour les personnes précaires. Et nous avons prié ensemble avec les responsables des églises et nous avons décidé d'aller là où personne d'autre ne pouvait faire. Et pour que le fardeau ne soit pas lourd, chaque église prenait en charge un dimanche où les chrétiens des différentes églises ensemble, au nom de l'amour de Dieu et du Christ, allaient faire des maraudes citoyennes et donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Je suis sûr, frères et sœurs, que vous avez autant d'exemples à partager. Quoi qu'il en soit, quoi que nous fassions, seulement faisons tout pour la gloire de Dieu. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton cœur qui est rempli d'amour inconditionnel, ton cœur qui est capable d'accueillir toutes celles et ceux qui viennent à toi. En Jésus-Christ, tu as voulu par le même esprit élargir nos cœurs pour que nous soyons cette communauté du partage et de la solidarité. Seigneur, nous venons d'effleurer ici le sujet et nous te prions que ton esprit nous enseigne encore sur ce point au-delà de ces minutes que nous venons de consacrer à un sujet si vaste. Nous te prions pour les solidarités dans lesquelles les uns et les autres sont engagés à titre personnel ou à titre associatif, afin que tu les accompagnes et que tu les bénisses, et que ton amour, d'une manière ou d'une autre, soit manifeste. Nous voulons te prier pour les solidarités présentes dans notre Église. Nous voulons te rendre grâce pour le ministère de la Maison des Parents. Nous voulons te rendre grâce pour Main Tendue et les équipes. Nous voulons te rendre grâce pour tous les bénévoles qui, discrètement, sont impliqués dans l'entraide sociale et fraternelle. Dans cet espace social et fraternel, nous prions vraiment que tu nous aides encore ensemble à imaginer et à inventer de nouvelles formes de solidarité afin que nous ne soyons pas cette communauté qui laisse dans l'indigence un frère ou une sœur. Seigneur, nous voulons aussi prier et bénir ce dimanche de manière spéciale tous les acteurs de solidarité, quels qu'ils soient. Parce que le bien est bien, alors nous bénissons notre ville et nous bénissons les acteurs de solidarité de notre ville. Nous te prions de renouveler les bénévoles, nous te prions de pouvoir et nous te prions aussi de nous donner la sagesse dans notre positionnement. Seigneur, bénis notre fédération aussi à travers la Bège en ce temps de dimanche des solidarités. Bénis ces centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Bénis tout le tissu associatif qui porte l'entraide dans nos églises et au-delà. Bénis les œuvres chrétiennes aussi qui sont mobilisées sur ce segment de la solidarité. Bénis les fondations humanistes qui apportent aussi leur contribution pour que des hommes, des femmes soient secourus dans leurs besoins. Seigneur, notre cœur est rempli aussi de tristesse quand nous voyons le monde avec ses guerres et avec ses conflits. Nous te remettons tous ces lieux où les âmes résonnent, où des vies sont prises au piège et sont volées. Nous te prions, Seigneur, pour qu'advienne ta paix d'une manière ou d'une autre. Nous te prions pour que tu suscites au haut niveau de la communauté internationale des hommes, des femmes de paix qui peuvent trouver des solutions qui soient des solutions qui apaisent les nations. Seigneur, ces problèmes nous dépassent, mais nous pouvons prier, nous pouvons te les remettre. toi qui n'es pas dépassé par le cours de l'histoire. Merci d'agir au nom de Jésus. Amen.